On est content, reconnaissant, et notre désir, c'est de pouvoir passer un temps béni avec vous. Ça me réjouit de voir le pasteur Maffre. Ça fait de nombreuses années qu'on le connaît. On a eu l'occasion de le visiter dans les églises où il a été pasteur. Donc que Dieu vous bénisse. Le thème que je vais partager avec vous a rapport avec les défis à l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la tâche principale de l'Église. L'Église qui n'évangélise pas meurt. L'évangélisation, c'est la raison d'être de l'Église. Et parfois, malheureusement, je crois qu'on a perdu l'objectif. On est sorti de l'objectif principal. Et on essaye là de développer notre vie chrétienne. Notre engagement avec l'évangélisation n'a pas la force, n'a pas l'énergie, la passion, l'engagement,
la
responsabilité. Et cela rend compliqué la tâche de l'évangélisation. Et cela complique notre croissance en tant qu'Église. L'accomplissement de notre ministère en tant qu'Église. Et donc, on va parler de ça pendant ces jours-ci.
La lecture que je vais vous inviter à lire en cette nuit est en
le. Et donc, le passage que je voudrais vous inviter à lire ce soir se trouve dans l'évangile de Marc. Nous allons lire dans le chapitre 6, du verset 30 au verset 44. Marc, chapitre 6, verset 30 à 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Où irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent à rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes.
esta historia está contada en diferentes lugares del Evangelio.
Cette histoire, on la retrouve dans les différents évangiles. En fait, dans les quatre évangiles, cette histoire est racontée. Et quand on regarde donc dans les quatre évangiles, ça nous permet d'avoir un panorama plus complet avec des détails sur ce qui est en train de se produire là. Les disciples rentraient d'une mission qu'il leur avait confiée. Et ils rapportent à Jésus comment les choses s'étaient passées pendant la mission. Ils lui racontent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Évidemment, le rapport était très bon. Ils avaient vu la gloire de Dieu. Ils avaient vu des miracles. Il leur avait été confié une mission. Et ils ont fait une bonne mission. Donc ils venaient contents. Et ils ont commencé à raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient enseigné. Et donc Jésus leur dit après, ben venez, on va aller dans un endroit à part. Et quand la foule a appris que Jésus était dans cet endroit à part, ils sont venus là aussi pour l'écouter. Et vous connaissez l'histoire. Une foule. Il les enseignait. Il guérissait les malades. Les miracles se produisaient. Et les gens étaient tellement centrés là sur ce qu'ils écoutaient, sur ce qu'ils voyaient, qu'ils avaient complètement oublié l'heure. Ils avaient complètement oublié l'endroit où ils étaient. Et d'un seul coup, là, un disciple dit à Jésus, il y a un des évangiles qui dit que c'est Philippe. Seigneur, cet endroit, il est désert. Et cette foule, là, est la fin. L'heure est déjà avancée. Et ici, il n'y a pas d'endroit pour acheter du pain. Renvoie-les pour qu'ils aillent manger chez eux. Et là, Jésus leur lance le plus grand défi. Donnez-leur vous-même à manger. Juste avant, ils avaient raconté à Jésus, oh, c'est extraordinaire, Seigneur. On a vu le diable tomber comme un éclair. On a vu les malades être guéris. On a vu ta gloire, Seigneur. Et là, ils ont tout oublié, là. Et là, ils sont en train de penser à l'estomac. Ils sont en train de penser aux difficultés.
Et
ils disent, Seigneur, regarde cette foule. Renvoie-les. Et Jésus dit, vous êtes la réponse. Donnez-leur vous-même à manger.
Sobre el milagro.
Vous êtes le miracle.
Ustedes son la respuesta.
Vous êtes la réponse.
Ustedes tienen que comer.
Donnez-leur vous-même à manger. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Un enfant apparaît avec 5 pains de poisson. Et à partir de cela, Dieu fait un miracle. Il alimente la foule. Un miracle est une histoire qu'on connaît tous. Et à partir de ce récit biblique, à partir de cette histoire,
vamos a encontrar el material que le va a dar, que nos va a ayudar para esta enseñanza.
On va regarder le matériel, là. On va trouver là le matériel qui va nous aider pour cet enseignement.
Que se titula Desafíos a la Evangelización.
Qui s'appelle Défi à l'évangélisation.
Aquí encontramos 5 desafíos.
Ici, on trouve 5 défis.
El primer desafío.
Premier défi.
Una multitud hambrienta.
Une multitude qui a faim.
El segundo desafío.
Deuxième défi.
Un lugar desierto.
Un endroit désert.
El tercer desafío.
Troisième défi.
La hora avanzada.
L'heure avancée.
El cuarto desafío.
Quatrième défi.
Los escasos recursos.
Le peu de ressources.
Y el quinto desafío.
Et le cinquième défi.
Dale vosotros de comer.
Donnez-leur vous-même à manger. Le défi de la foule. De quoi nous parle ce défi? Matthieu 13:38 dit: le champ, c'est le monde. Amen. Matthieu 13:38 dit: le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et qu'est-il dit ensuite? Livrés, ce sont les fils du malin. Et livrés, ce sont les fils du malin. Le champ, c'est le monde.
Wesley
disait: le monde entier est ma paroisse. C'est un rapport avec la vision, avec ce que l'on vise. Jésus avait cette vision-là. Le champ, c'est le monde. Les enfants du royaume sont la bonne semence. Et la mauvaise semence, livrée, ce sont les fils du malin. Est-ce que vous connaissez l'état du monde en ce qui concerne l'évangélisation? Parce que c'est notre tâche principale. McDonald's ne va jamais mettre une franchise dans un endroit sans d'abord avoir fait une étude de marché. Le public potentiel qui va consommer ses produits. N'importe quelle entreprise. Elle regarde, elle voit la réalité.
Pour que la empresa que elle va a llevar a cabo, va gerenciar,
afin que l'entreprise dont qu'il va gérer
sea rentable.
Et soit rentable.
Donde tenemos que predicar. prêcher l'Évangile.
Où doit-on prêcher l'Évangile?
Dans le monde.
Dans le monde entier.
Et pour tout le monde.
Aller de par le monde.
Et prêcher l'Évangile.
Et annoncer l'Évangile.
Utilisez l'imagination et allez un cercle.
Utilisez l'imagination. Faites un cercle.
Et ce cercle, pendant quatre parts.
Et divisez ce cercle en quatre parts.
Le monde a un peu plus de 7 millions d'habitants.
Le monde a un peu plus de 7 milliards d'habitants.
La part de,
la on va dire que un quart
est chrétien.
Sont chrétiens.
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 Toute la rama du christianisme.
Et quand je dis chrétien, là, dans ce quart, je parle de toutes les branches du christianisme.
La quarta parte.
Représente un quart de la population mondiale.
Todos los esfuerzos de evangelización.
Tous les efforts d'évangélisation.
Están orientados a la otra quarta parte.
Sont orientés vers, allez, on va dire, le deuxième quart. Les traités, les programmes de radio, la télévision, les campagnes d'évangélisation sont orientés vers un deuxième quart. Et la deuxième moitié du cercle.
Tienen poco o nada.
A peu ou pas.
De présence évangélique.
De présence évangélique.
Y hay un dato todavía mucho más preocupante.
Il y a des données qui sont encore plus préoccupantes.
El 93% del trabajo misionero.
93% de la tâche missionnaire
está en una cuarta parte.
Est orienté sur le deuxième quart.
Et 7% restante.
Et seulement 7% de la tâche missionnaire est orienté vers la moitié non évangélisée.
En missiologie, ça se llama la tarea restante.
En missiologie, on appelle ça la tâche restante.
Lo que falta por hacer.
Ce qui manque à faire.
Hay comunidades enteras.
Il y a des communautés entières
no tienen una iglesia.
Qui n'ont pas d'église.
Que no han escuchado jamás el evangelio.
Qui n'ont jamais entendu l'évangile.
Que no hay un solo creyente en toda esa comunidad.
Dans lesquelles il n'y a pas un seul chrétien. Ça, c'est le monde.
C'est le campo.
Ça, c'est le champ.
C'est la multitude.
Ça, c'est la foule qui a faim.
C'est la multitude.
Ça, c'est la foule
qui a été attendue.
Dont il faut s'occuper.
Et, no hay que ir muy lejos.
Et on n'a pas besoin d'aller très loin.
Para decir que esa multitude
pour dire que cette foule, nosotros. Elle est... Oui, elle est avec nous.
France.
La France
tiene el 0,7% de población
évangélique. A 0,7% de population évangélique. On ne représente même pas 1%. C'est notre terrain. En France, il y a une église pour 30 000 personnes. Je travaille en Cerdagne. Et donc, la Cerdagne, les assemblées de Dieu en Cerdagne. Ont établi un projet d'implantation d'église là-haut. Pour la Cerdagne.
La
Cerdagne, c'est un plateau, point de vue géographique,
la quale 50% appartient à France et l'autre gracia de Dios ahora hay una iglesia.
Et par la grâce de Dieu maintenant il y a une église. Vous imaginez combien de villes et de villages autour sans église? Quelle est notre mission? La France, c'est ça. Quand je viens donc de l'endroit où j'habite, il faut que j'arrive jusqu'à Pamiers pour trouver une église. Si je vais vers Perpignan, il faut que j'aille jusqu'à Prades, à une heure de route, pour trouver une petite église. Et de Prades après jusqu'à Perpignan, une demi-heure de route. Quand je voyage en France, je passe par une quantité de villes et de villages qui n'ont pas d'église. Juste avant de venir là, je suis passé par une ville que j'ai trouvée assez importante. Et j'ai vu que vous avez des réunions maison à cet endroit-là. Revel, voilà, c'est ça. C'est une ville importante. Et je me disais, mais je n'ai pas entendu dire qu'il y a une église là. Et maintenant, il y a une église? On sait comment. Mais il y a des croyants là. Et donc vous avez une cellule, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait des réunions. Il annonce qu'il y avait des réunions de maison. Amen. Moi ça me réjouit. Quand je suis allé au séminaire, donc je suis passé par un endroit qui s'appelle Saint-Giron. Et c'est grand. Et je me posais la question, mais est-ce qu'il y a une église à cet endroit-là? Mais maintenant, pasteur Bernard Gisquet avec, je ne sais plus, quelqu'un d'autre, ils sont deux, ils sont en train de commencer des réunions, là. Ça me réjouit. Ça me réjouit.
Porque son pasos pequeños.
Parce que ce sont des petits pas.
Pero pasos adelante.
Mais ce sont des pas vers le vent. Et la vérité, c'est que quand je passe par tant d'endroits, et je ne vois pas d'église. Ou que je regarde là l'annuaire des assemblées de Dieu pour savoir où on est. Il y a beaucoup d'endroits où on n'est pas. Et ce que nous représentons, on n'est même pas encore 1%. Le défi est là. La foule. La foule.
Una multitud hambrienta.
Une foule qui a faim.
Tú y yo tenemos el pan de vida.
Toi et moi, on a le pain de vie.
Oswald Smith.
Oswald Smith.
Un libro que se llamaba Pasión por la...
a écrit un livre qui s'appelle La Passion des âmes.
Mira lo que dice Oswald Smith.
Et regarde ce qu'il dit.
No es justo.
Il n'est pas juste que quelqu'un entende l'évangile deux fois alors que d'autres n'ont même pas eu l'occasion de l'entendre une seule fois. Combien d'années est-ce que tu as en tant que croyants.
Oui.
40 ans. 40 ans.
En 40 años.
Et en 40 ans.
¿Cuántas veces has escuchado el evangelio?
Combien de fois as-tu entendu l'évangile? Et il y a des gens qui ne l'ont même pas entendu une fois. Et ce n'est pas juste. Un attribut de Dieu, un attribut moral de Dieu, c'est qu'il est juste. Et là, on faillit. Elle est terrible. On entend l'évangile une fois et encore une fois et encore. Et il y a une foule qui ne l'a jamais entendu. Je suis en Cerdagne et je suis content là-haut. Je suis vraiment reconnaissant à Jésus. C'est un travail très dur parce qu'on est isolé là-haut. Mais être convaincu que c'est la volonté de Dieu. Pouvoir être une réponse aux besoins.
Amen.
C'est gratifiant. Ça te remplit de paix. Où que nous allions, on va trouver le besoin.
Quand on parle de la tarea restante,
quand on parle de la tâche restante, on peut voir combien il manque encore dans le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu en missiologie parler de la fenêtre 1040. Certains ont entendu cette expression afin de prier pour ces gens. Si on regarde une carte du monde,
sobre la latitude 10-40.
En fait, c'est une question de latitude, la latitude 10 et 40.
Et, hace uno,
et ça fait toute une frange.
Y en esa latitude,
et dans cette latitude, entre le parallèle 10 et le parallèle 40,
en mission, se llama la ventana 10-40.
Donc en mission, on appelle ça cette fenêtre 10-40.
Ahí está.
C'est là qu'est concentrée la plus grande quantité de nations où l'évangile manque encore. Cherchez sur Google fenêtre 1040 et vous aurez toute l'information là-dessus. Des nations les moins évangélisées où il y a le plus de persécution. C'est incroyable. La tâche qu'il nous manque encore à faire. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est l'indifférence. Renvoie-les. Renvoie-les. Qui se débrouille. Nous sommes face à un grand défi. Une grande foule. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester pareil. On va changer cette réalité. Et cette réalité
ne va changer. Ne va changer aucune institution humaine.
Ce n'est aucune institution humaine qui va la changer.
Ne va changer Macron.
Ce n'est pas Macron qui va la changer. Le Pen.
Ne va changer aucun politique.
Ce n'est aucun politique qui va la changer. Ce n'est pas à eux que Dieu a confié cette tâche. C'est à nous l'Église qui l'a confié.
Il te anima.
Amen. Amen.
Gloria a Dios.
Amen. Gloire à Dieu.
Te anima. No sé si usted quiere dormir.
Je sais pas si vous êtes sur le point de dormir ou quoi. Il y a encore une tâche restante.
Esto, ni siquiera los ángeles pueden hacerlo.
Même les anges ne peuvent pas le faire.
Non,
non.
Somos nosotros.
C'est nous.
Et
elle continue à grandir, et elle continue à grandir. planter de nouvelles églises et encore et encore. Au Brésil, le projet qu'ils avaient, c'était une église dans chaque rue. J'étais à Rio il n'y a pas longtemps et je parlais sur les besoins de l'évangélisation en France. Et je leur parlais donc de la situation de la France. Sur la multiplication, l'implantation d'églises. Et quand le pasteur était en train donc d'achever la réunion, il a dit, vraiment on a entendu quelque chose qui est un défi. Nous ici, sur une distance d'un kilomètre, nous avons 10 églises. Une église tous les 100 mètres. Et ces projets, il y en a eu dans pratiquement toute l'Amérique latine. C'est pour ça qu'ils ont atteint des niveaux de croissance extraordinaires. Le Brésil a pratiquement 30% de chrétiens. Le Pérou a 15% de chrétiens. Le Chili, 20%. Le Guatemala a plus de 50% de chrétiens. J'étais dans une église au Salvador. Qui avait 60 000 membres. Et elle avait une dynamique d'évangélisation extraordinaire. Ils travaillaient à travers le système de groupe maison. 20 personnes dans chaque groupe. Et tous les 3 mois, ce groupe se multipliait par 2, devenait 40. Et ils travaillaient comme ça. Et ils avaient des centaines de groupes. Des années plus tard, j'ai rencontré le pasteur de nouveau. Et je lui ai demandé comment allait le travail. Et à l'époque, ils étaient 132 000 membres. On a besoin de créer des projets. Et la France est en train de créer des projets. Avec des objectifs clairs. Le mouvement M2, l'objectif c'est un disciple gagne un autre disciple. Une église plante une autre église. Et un pasteur fait lever un autre pasteur. C'est le défi face à la multitude. On a besoin de milliers et de milliers d'églises. Et sûrement qu'on va avoir besoin de milliers de pasteurs. Et des milliers et des milliers ont besoin d'être sauvés. Dans notre église, tout ce mois-ci, on est dans une chaîne de jeûne et prière. Tout le mois. Le mois va finir. Et on veut continuer le mois d'après. Vous savez quelle est la requête principale? Le salut. De toute cette foule, que dans chaque ville et village de Cerdagne, la bannière de l'Évangile soit plantée pour annoncer la liberté en Jésus. Et on a une stratégie. Pendant une semaine pendant le jeûne, chaque personne, on n'est pas nombreux encore, hein? On
entendido.
Me han compris.
Durante una semana.
Donc pendant une semaine.
En el ayuno y la oración.
Pendant le jeûne et la prière.
Vamos a orar por una persona.
On va prier pour une personne.
Tenemos que pedir. No, Señor, salva al mundo.
C'est pas Seigneur sauve le monde. Sauve les nations. Que les âmes soient sauvées. C'est spécifique.
Seigneur, salva.
Seigneur, sauve.
À Paul.
Paul.
À Monsieur Dupont.
Monsieur Dupont.
Luego de esa semana.
Après cette semaine,
iremos a hacer contacto.
On ira faire un contact avec Monsieur Dupont.
Con Paul.
Avec Paul. Pour les inviter à, pour inviter la personne à prendre un café. Pour faire un contact personnel. Et dans ce contact, montrer à cette personne quelle est notre vie en Christ. Montrer à cette personne l'amour de Dieu. Avec nos actes. Ensuite, l'inviter à une réunion. L'objectif, c'est que cette personne, elle connaisse Jésus. Avec le jeûne, avec la prière, on va y arriver. Depuis le mois de juin, on prie tous les jours, tous les matins, à 6 heures du matin. Et en Cerdagne, il fait froid. Et donc, on avait prévu d'aller jusqu'au mois d'octobre. Ils ont dit, non, mais il faut continuer. Et ils continuent à venir à 6 heures du matin pour prier. Il faut qu'on ait des projets. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on ait une vision. Un objectif. Et la France, c'est le meilleur endroit pour évangéliser. Parce qu'il y a des millions de personnes qui ont besoin de l'évangile. Donc il y a énormément de clientèle.
lugar desierto.
Le lieu désert. Seigneur, le lieu est désert. Dans la Genèse, chapitre 2, on va regarder à partir du verset 4. Genèse, chapitre 2, verset 4.
La lecture est un peu extensive jusqu'au 15, non?
On va lire jusqu'au verset 15. Le lire tout. Mais là, c'est les origines de comment les cieux et la terre ont été créés. Voilà, 5, 6. Lorsque Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'avait point fait d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. C'est bon ? Voilà, le nom du premier est Pishon, et celui qui entoure, c'est celui qui entoure le pays de Havilah, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. Et c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Quelle nostalgie, madame.
Quelle nostalgie. De voir comment les choses ont été faites. Dieu a créé pour l'homme un paradis. Mais la désobéissance, le péché, ont ôté l'homme de ce paradis. Et où est-il allé? Ça, c'est la création de Dieu. Il a créé tous les circuits pour que lorsqu'ils sont connectés, il y ait la production. Il y a la vie. Il n'y avait pas de sécheresse. Il n'y avait pas d'arbres secs. Tout était connecté. Le fleuve qui avait quatre bras et qui pouvait là arroser la terre. Et tout ça, on appelle ça comment? L'Éden. Le paradis. Et la voix de l'Éternel se promenait dans le jardin. Communion, vie, fraîcheur. Quelle nostalgie. Mais le péché a tout gâché. Et lorsque l'homme est sorti du paradis, là, on a commencé à connaître des lieux secs,
la sécheresse,
le désert. c'est une malédiction. C'est la conséquence du péché. Dans, on voit dans 2 Samuel, chapitre 21 et verset 1er, 2 Samuel, chapitre 21 et verset
1er,
il y a la famine dans le pays. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il y a la sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Pourquoi? À cause du péché. Dieu a envoyé un châtiment. Le désert. C'est une conséquence. Dieu n'a pas créé le désert. Le désert, c'est ce qui est un résultat. C'est un résultat. Et ce que Dieu dit à David, il y a la famine là dans le pays. Il y a le manque. Il ne pleut pas. Il y a la sécheresse. Les gens meurent, les bêtes meurent. David dit, Seigneur, tu m'as dit que mon royaume serait perpétuel. Que tu allais me faire prospérer. 3 ans. Et regarde ce qui se passe. Et le Seigneur lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Quand il y a le péché, il n'y a pas de production. Quand il y a le péché, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas la communion avec Dieu, il n'y a pas de paradis. L'endroit est désert. L'endroit est désert. On va lire dans Joël, chapitre 1er et verset 10. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Vous voyez cette description? Et si vous lisez les versets qui précèdent, vous allez vous rendre compte du pourquoi de cette réalité. Le péché, la désobéissance. Maintenant, on va lire Agé. Agé, chapitre 1er et verset 10 et 11. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. J'ai appelé la sécheresse. C'est moi qui ai appelé la sécheresse. Le désert, c'est la conséquence de la désobéissance et du péché. Quand il y a la sécheresse, quand il y a le désert, il y a le manque. Il n'y a pas de production. Maintenant, on va voir un autre verset. Osée,
9, del 11 al 14. Escucha, es importante. Capítulo 9.
Chapitre 9.
Verso 11 al 14.
Verset 11 à 14. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. Si vous vous arrêtez à regarder chaque détail, la gloire d'Éphraïm s'est envolée. Il n'y aura pas de production. C'est terrible. C'est triste. Il y aura la tristesse, il y aura le malheur. Je les abandonnerai quand je les abandonnerai. Plus de naissance. Plus de grossesse, plus de conception. À cause du péché. Si nous vivons dans le péché, il
n'y
aura pas de naissance. Nous sommes appelés à nous multiplier. Y avoir de nouvelles naissances, des nouvelles créatures. L'Église, elle doit être remplie de nouvelles créatures. Parce que l'Église a la bénédiction de Dieu. Mais lorsque la malédiction vient à cause de la désobéissance, il est dit même que les mamelles vont se dessécher. Les femmes ne pourront pas alimenter leurs enfants. Ils vont mourir de faim. Un endroit désert. C'est terrible. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est terrible aussi. C'est que dans cet endroit désert, c'est l'endroit où le diable habite. Luc 11, 24. Tout est écrit dans la Bible. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, les lieux arides, secs, où se reposer.
Al
quand Jésus a été emmené par l'Esprit au désert, où est-ce que Jésus a été lutté? Après avoir été baptisé, où est-ce que l'Esprit l'a emmené? Au désert. Pourquoi faire? Pour se battre. C'est là qu'il a été lutté. Là, il s'est trouvé avec le diable lui-même. Les esprits impurs. Je sais pas si ça vous est arrivé d'avoir une expérience d'aller jeûner dans le désert. C'est terrible.
Littéralement,
c'est terrible. Je le conseille pas à quelqu'un qui soit pas vraiment spirituellement bien. Faut être conduit par Dieu. Le désert, là, c'est littéral. C'est pas symbolique. Quand l'esprit impur sort d'une personne, il va chercher les lieux arides. Et c'est là qu'il se repose. De quoi avez-vous été fait?
De la poussière.
Mais la terre, lorsqu'elle est mélangée avec l'eau, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'esprit. Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Tu te traîneras et tu mangeras de la poussière de la terre. Celui qui n'a pas la vie, parce qu'il est mort dans ses péchés, dans ses offenses. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que l'Esprit impur, il va dans ces endroits-là? Là où il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas l'Esprit. Parce que là, il y a la mort. Il y a une foule dans un lieu désert qui est sous la malédiction, qui est sous le péché, qui est sous la désobéissance, qui est dans les ténèbres, qui nous attend. On a besoin de la puissance de Dieu, de l'esprit de vie en nous.
Alléluia.
La France, il y a une foule qui a faim. Et où est la France? C'est pas une critique. Et c'est pas un jugement. C'est la description d'une réalité pour que cela crée en nous une conscience, pour que cela crée en nous un défi. Oh, tu es en France, la Tour Eiffel, le Mont Blanc, ah, la France. A besoin qu'on plie le genou. La France a besoin de notre supplication, de nos larmes. Voilà la France. Ça, c'est la France que Dieu aime. C'est la France que Jésus veut voir transformée, qui est dans un désert. Avec qui parlent de Napoléon,
de Voltaire,
de
Charles de Gaulle.
De Gaulle. Ils connaissent davantage De Gaulle que Jésus. Ils connaissent plus Neymar et le PSG. Et il y a des endroits en France où il y a un McDo où tu peux boire un Coca parce que là-bas les gens connaissent Coca, mais ils ne connaissent pas l'église. Il y a un monsieur bricolage ou un McDo,
un
Leclerc, un Hyper U. Il n'y a pas d'église.
Entonces,
alors,
tu
peux acheter une perceuse.
Tu
peux acheter un hamburger. Mais tu ne peux pas manger le pain de vie. Parce qu'il n'y a pas d'église.
Il
y a un désert. Et de grandes extensions de terrain. De territoire où il n'y a pas un seul croyant, où il n'y a pas une église. La France, c'est le meilleur endroit pour faire la mission.
Alléluia! Alléluia! Amen!
Amen! Tu veux prier? Il y a énormément de motifs. Changer cette réalité. Une fois je prêchais,
terminar por ahora.
Je crois qu'on va terminer.
Mañana,
aujourd'hui, Et on continuera donc demain.
Amen. Alléluia.
Mais je voudrais prier. J'ai reçu quelque chose de Dieu. J'ai reçu un fardeau pour ce pays. Un fardeau pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Un fardeau pour les endroits qui n'ont pas d'église. Et la vérité, c'est que c'est un fardeau qui est lourd, très lourd. Et je voudrais partager avec toi ce fardeau. Pour que ta vie ne soit plus la même. Pour que tu t'engages à travers ton église dans l'évangélisation. Il y a des défis extraordinaires. La France a besoin de nous. Ce pays est merveilleux. Dieu a donné à la France beaucoup de richesses naturelles. Mais il veut aussi lui donner des richesses spirituelles. Et je voudrais que, alors que je prie, le Seigneur puisse te transmettre une partie de ce fardeau qu'il a mis dans mon cœur, de cet esprit qu'il a mis en moi. Ça peut changer. Je sais que ça peut changer. Là où je travaillais au Pérou, on a implanté près de 100 églises. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu les miracles de Dieu. Des miracles extraordinaires. Dieu va faire la même chose. Dieu va changer ça. Je sais qu'il va le changer. Je travaille avec une petite église. Mais je t'assure qu'ils ont maintenant une vision. Ils jeûnent, ils prient, ils ont compris. Mais on a besoin de comprendre tous. Nous sommes une église. On n'est pas n'importe quoi. Notre nature est divine. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Pour voir les choses du royaume. Donc prie avec moi. Pour la France. Pour cette foule qui est dans ce désert. Qui cherche des réponses. Qui cherche à étancher sa soif et qui ne trouve pas, qui ne trouve pas, et qui va
à la brujerie,
vers la sorcellerie, vers l'idolâtrie, qui va à la tombe de Bernadette Soubirous, qui va à Lourdes, qui fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. À essayer de trouver une réponse qui va vers la drogue, vers la prostitution, vers la délinquance, vers le terrorisme, et qui ne trouve pas de réponse parce que c'est le désert. Nous avons la réponse. C'est nous qui pouvons leur donner à manger. Toi, mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. J'ai des possibilités. J'ai l'eau dont le monde a besoin. J'ai le pain de vie. C'est important ce que j'ai à dire. Et là, le changement commence. Alors, on verra une église qui est passionné pour Dieu, qui a un fardeau pour les perdus, qui a la compassion des perdus. Et là, on commence à être une réponse. On va prier. Ouvre ton cœur et dis: Seigneur, me voici.
nombre de Jesús.
Père, dans le nom de Jésus.
Yo te adoro.
Je t'adore.
Porque creaste todo perfecto.
Parce que tu as créé toutes choses parfaites. Tu as créé l'abondance.
Porque creaste lo suficiente.
Tu as créé ce qui était suffisant.
Oh, mi Dios, tú eres bueno.
Tu es bon.
Señor, pero vemos como el mundo
Seigneur, mais nous voyons comment le monde a changé.
Lejos de ti.
Loin de toi. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes dans ce pays. Nous sommes là, Seigneur. Et nous voyons des besoins immenses. Et nous voyons qu'au milieu de ces besoins, tu as fait lever beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises. Mais face aux besoins, nous sommes peu nombreux. Face à la foule, Seigneur, tu peux changer cette réalité. Parce que ta parole dit, avec un petit nombre, avec un grand nombre, la victoire appartient à l'Éternel. David était petit, mais il a fait tomber un géant, le
grand
de l'Éternel. Et tu nous as donné l'autorité,
el poder,
la puissance
para ir a hablarles a la gente,
pour aller parler aux gens.
En tu nombre,
en ton nom,
sanaremos enfermos,
nous guérirons des malades.
En tu nombre,
en ton nom, nous chasserons des démons.
En ton
nom,
la gente se salvará.
Les gens seront sauvés.
Porque todo el que invocare el nombre de
parce
Jesús
que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je te demande pour le pasteur.
Je te demande
pour Señor. L'église de Castres.
Oh, mi Dios. Dale la fuerza.
Donne-leur les forces.
Dale el mensaje.
Donne-leur le message.
Dale la unción.
Donne-leur l'onction.
Dale el poder.
Donne-leur
la capacidad.
Donne-leur les capacités.
De poder mostrar tu gloria.
De pouvoir montrer ta gloire.
Salva la sal.
Sauve les âmes.
Salva la gente de casa.
Sauve les gens de casa.
Oh, rabatanda, rabatama, pan, diri, la sola. ¿Cuántos pueblos hay alrededor, Señor?
Combien de villes de village hay alentour, Señor?
¿Cuántas poblaciones, Señor, que no tienen iglesia, Señor?
¿Qué pasa?
En el nombre de Jesús.
Señor, yo te demando en el nombre de
Jesús. Salve, Señor.
Sauve-les, Seigneur.
Levanta gente aquí, Seigneur.
Fais lever des gens ici,
con
Seigneur.
Passion,
avec une passion
pour
l'évangélisation.
Amor pour
l'amour pour les âmes qui se perdent.
Para que se levanten como colaboradores.
Afin qu'ils se lèvent comme des collaborateurs.
Como hombres y mujeres,
comme des hommes, des femmes
qui veulent servir,
qui veulent te servir,
en colaborar en
qui veulent collaborer dans le royaume de Dieu.
Lo único que queremos,
parce que la seule chose que nous voulons,
la multitud,
c'est que la foule
pueda comer el pan de vida.
Puisse manger le pain de vie.
Que l'endroit désert.
Que l'endroit désert.
Que la transforma.
Puisse être transformé.
En un paraíso.
Dans un paradis.
Padre, yo te lo pido.
Père, je te le demande.
En el nombre de Jesús.
Au nom de Jésus.
Bendice esta vida.
Bénis ces vies.
Bendice tu palabra.
Bénis ta parole.
Toca los corazones.
Touche les cœurs.
Cambia la mentalidad.
Change la mentalité.
Y llévanos en el poder del Espíritu Santo.
Et mène-nous dans la puissance du Saint-Esprit.
A ser fieles.
Afin que... À être fidèle au commandement que tu nous as donné.
Padre, te lo pido.
Père, je te le demande
en el nombre
dans le nom de Jésus.
Amen.